critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai et Avis critique explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres pour répondre à la crise de la démocratie. Par la philosophie d'abord, avec l'essai de Jean-Claude Monod, « L'art de ne pas être trop gouverné » publié au Seuil, un essai qui tente de suivre une ligne de crête difficile pour réhabiliter le libéralisme politique contre le néolibéralisme. En posant la question déjà ancienne du bon gouvernement, Monod se propose de suivre et de poursuivre les réflexions de Michel Foucault sur la gouvernementalité. Répondre à la crise de la démocratie par la magie et la poésie. Ensuite, c'est la proposition d'Adeline Baldacchino dans Notre insatiable désir de magie publié chez Fayard. L'écrivaine, poète et ancienne élève de l'ENA propose ici une critique en règle du macronisme. Pour échapper aux injonctions mortifères et aux alternatives binaires nées paradoxalement de la pratique du en même temps, elle propose de se tourner vers l'imaginaire et développe ce qu'elle appelle le principe Houdini, une façon d'échapper aux pièges tendus aujourd'hui par le réel. Et en studio pour débattre de ces deux livres, Béatrice Bougnol du quotidien La Croix, bonsoir Béatrice.
Bonsoir.
Et Vincent Trémollet de Villers de l'autre quotidien, Le Figaro, enfin l'autre, bonsoir. Un autre quotidien, un plutôt quotidien. Il n'y en a pas que
bonsoir.
Deux. Bonsoir et merci d'être là tous les deux. Je vous propose de commencer par le livre de Jean-Claude Monod, L'art de ne pas être trop gouverné, qui est donc publié aux éditions du Seuil dans la collection L'Ordre philosophique, une collection qu'il co-dirige d'ailleurs avec Michael Fossel. Jean-Claude Monod enseigne à l'École normale supérieure de Paris, il est spécialiste de philosophie politique et avait notamment publié un livre important il y a quelques années, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? Déjà aux éditions du Seuil, c'était en 2012. La question est aujourd'hui au cœur des interrogations sur la représentation et la participation citoyenne. Le livre qui nous intéresse ce soir poursuit, on pourrait dire, cette réflexion en se replongeant dans la notion de gouvernementalité développée dans les années 70 par Michel Foucault. Il s'inscrit au passage dans l'actualité politique et sociale. Le mouvement des Gilets jaunes est ici présent et dans l'actualité des idées, puisque c'est l'un des leitmotifs de cette émission, n'est jamais tout à fait déconnecté de l'actualité politique. En effet, ces dernières années, on a pu lire sur le sujet les contributions de Nicolas Rousselier sur La force de gouverner, c'était chez Gallimard, de Grégoire Chamaillou sur La société ingouvernable, c'était à La Fabrique, ou encore le livre de Pierre-Henri Tavoyot sur Comment gouverner un peuple roi, publié chez Odile Jacob. À chaque fois, la même question apparaît, celle des conséquences du néolibéralisme qui, rappelle Monod, a assujetti le politique à l'économique. La preuve, c'est le poids du New Public Management, d'une réforme continue de l'action publique à laquelle sont appliquées les recettes du secteur privé. Le philosophe reprend ici la critique là où l'a laissé Michel Foucault pour la porter un peu plus loin et surtout lorsqu'elle semble s'étendre au libéralisme dans son ensemble. Il défend donc l'idée que le libéralisme politique authentique doit être reconnu comme la source d'une élaboration précieuse des contre-pouvoirs et des limites à imposer au pouvoir de l'État. Voilà. J'ai essayé de résumer un livre compliqué, Béatrice Bougnol, enfin compliqué en tout cas, ardu, dense. C'est un essai qui propose de sortir d'une impasse dans laquelle on se sent tous piégés, hein, face à la crise de la démocratie, comment repenser le politique, le champ politique, ses délimitations, comment retrouver aussi le consentement à être gouverné. Et si on confond notamment, si on confond toutes les formes de libéralisme, ça semble impossible, nous dit Jean-Claude Monod.
Oui, alors exactement comme vous venez de le dire, Raphaël, c'est effectivement un essai qui peut paraître parfois un peu ardu, dont le style est parfois un peu sec, mais qui pour moi a une grande qualité. Ça en fait un livre important, je pense, dans le moment que nous sommes en train de vivre. C'est justement, en fait, parce qu'il permet de mettre des mots sur la situation politique qui est la nôtre et sur la situation de crise. C'est devenu une banalité de le dire, qui est la nôtre, de crise, voire d'impasse, puisque c'est le mot même qu'il emploie dans son avant-propos. Et quelque part, j'allais dire, Monod nous fait une leçon de philosophie politique, c'est-à-dire que c'est la force du concept, de la philosophie, que de nous permettre de regarder la situation dans laquelle on se trouve immergé, et donc par définition qu'on n'est pas tout à fait capable d'analyser, donc de nous permettre un recul par rapport à cette situation et de l'éclairer un peu autrement. Alors, pour cela, comme vous l'avez dit aussi, il utilise un concept qui n'a pas été forgé par lui, mais par Michel Foucault dans les années 70, qui est celui de gouvernementalité. Alors, pour faire plus simple peut-être et pour aller vite, disons que c'est l'ensemble des formes de gouvernement qui ne se réduit pas à la relation entre un sujet et un souverain ou entre un citoyen et un chef, puisque justement, Michel Foucault forge ce concept-là pour réagir à cette vision-là de la philosophie politique. Et donc, la question que va poser Monod après Foucault, ça n'est pas tant quelle est la crise de la démocratie que nous vivons, c'est quelle est la crise, quelles sont les formes de gouvernement qui sont rentrées en crise et qui provoquent le moment de trouble que nous vivons. Et dans ces moments de trouble, certains se lèvent pour dire justement nous ne voulons pas être gouvernés ainsi. Et là, comme vous le disiez, on pense évidemment aux gilets jaunes. On ne veut pas payer si d'autres ne payent pas. On ne veut pas payer si on ne sait pas si notre argent va être utilisé pour la transition écologique. On peut penser aussi aux manifestants d'Extinction Rebellion, les militants écologistes dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui refusent d'être gouvernés par des États qui ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis du réchauffement climatique. Donc on va rentrer après dans le détail de son argumentation qui est très dense, mais ce que je voulais mettre en avant dès le départ, c'est la capacité d'un philosophe politique comme Jean-Claude Monod à éclairer le présent d'une autre manière.
Oui, Vincent Trémollet de Villers, il le dit, hein, Jean-Claude Monod, c'est un double rapport de reprise et de distance aussi à l'égard de Michel Foucault qu'il entreprend dans cet essai.
Oui, alors moi je partage avec vous deux le fait que cet essai, l'idée que cet essai est très très dense et nourrissant à beaucoup d'aspects. Je le trouve aussi un peu diffracté, c'est-à-dire que il effleure ou il croise un certain nombre d'éléments de la crise démocratique contemporaine, mais il ne dit pas au départ quelle est sa source profonde, à mon avis. Et il part d'un principe qui est que l'autorité est forcément une autorité de domination et que la hiérarchie, au fait, est une hiérarchie qui restaure des ordres anciens que la démocratie avait abattu. Et en cela, on retrouve la grande tension démocratique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie comme régime, avec le choix d'un chef par le peuple pour le peuple, et la démocratie comme principe historique tel que Tocqueville l'a défini, c'est-à-dire le développement des droits individuels qui fait que chaque individu n'accepte plus d'avoir une hiérarchie. Et je trouve que ce qui manque dans cet ouvrage, c'est cette possibilité d'installer une hiérarchie, une autorité qui ne serait pas fondée sur la restauration d'une domination. Je vais prendre un exemple littéraire d'un roman que très peu de gens ont lu, je pense, qui est complètement oublié, mais qui est très intéressant, qui s'appelle L'homme du roi de Félicien Marceau, qui était sorti chez les Gallimard dans les années 70, et qui décrit quelqu'un qui, pris par l'ambition, devient conseiller du prince et, à mesure qu'il s'approche du pouvoir, se dépouille de ses ambitions et de ses vanités pour essayer d'être simplement un serviteur de ceux dont il a la charge. Et donc là, notamment dans toute la réflexion qu'a Jean-Claude Monod sur le charisme, alors à la fin il fait des choses sur les charismes positifs, mais on a l'impression qu'il y a cette crainte, après les différentes déconstructions que nous avons vécues, qu'il y ait une forme de restauration. Or il me semble qu'il ne peut pas y avoir de politique sans hiérarchie, et le mouvement des Gilets jaunes, comme le mouvement Nuit Debout, nous en a fait la preuve, puisque c'est des mouvements qui ont montré une horizontalité absolue, au nom d'un principe démocratique absolu, et qu'ils ont abouti à l'émergence de chefs de plus en plus difficiles et de plus en plus excluants.
Alors, Jean-Claude Monod, tout de même, Vincent Trémollet de Villers, n'exclut pas toute forme de hiérarchie. Pour articuler un petit peu à ce que vous venez de dire, je pense qu'il le prend en compte dans sa réflexion justement sur la nécessité de redélimiter le champ politique, de redélimiter le champ du gouvernement et de redélimiter le champ des libertés ou du libéralisme, puisque c'est vraiment quelque chose qui court tout au long du livre, et d'opposer le libéralisme politique au néolibéralisme, on peut dire, donc au libéralisme économique qui assujettit le politique depuis, on va dire, 3-4 décennies, pour le dire comme ça, Béatrice Bougnol.
Oui, je pense qu'il faut revenir effectivement au fondement de son argumentation. En fait, la spécificité de la crise, encore une fois, des formes de gouvernement que nous vivons, Monod l'a fait remonter, on va dire, aux années 80. Et avant de s'attacher à cette crise, justement, il nous enseigne sur les formes de gouvernement sur lesquelles on vivait et qui sont donc entrés en crise. Et ces formes de gouvernement, finalement, il les fait remonter bien plus loin, puisqu'il les fait remonter effectivement au XVIIIe siècle et à la naissance du libéralisme politique. Donc là, il donne, parce que, encore une fois, l'essai est ardu, mais il est aussi très pédagogique quelque part. Monod donne, par exemple, une forme de triangle pour comprendre cette forme de gouvernement sur laquelle on était jusque dans les années 80. C'était un triangle formé par la souveraineté du peuple, la nécessité de la représentation et le libéralisme politique qui avait ouvert aux droits individuels, à la protection des droits individuels. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 1980, effectivement, avec cette arrivée du néolibéralisme? C'est évidemment un accroissement indéniable des droits individuels, de la protection des droits individuels. C'est par ailleurs un accroissement aussi du contrôle de l'État par l'émergence d'autorités indépendantes, par exemple. Mais c'est en même temps de tout ça, le ressenti, l'accroissement d'un sentiment de plus en plus grand et de plus en plus dérangeant de ne plus contrôler sentiment des peuples, hein, de ne plus contrôler leur destin, de ne plus contrôler les dynamiques économiques qui régissent en fait leur vie. C'est face à cette situation-là que Monod essaye d'expliquer encore une fois la situation politique dans laquelle nous nous trouvons pour dire finalement il y a deux spécificités à cette crise des formes de gouvernement actuelles. Elle ne vise plus que l'État, comme ça a été le cas avec le XVIIIe siècle et ce moment de libéralisme politique, parce qu'elle s'attaque finalement à des intérêts privés, à la domination économique. Et j'allais dire, le danger attaché à cette spécificité-là, c'est que finalement, l'art de ne pas être trop gouverné, c'est-à-dire cette espèce d'équilibre entre le fait d'accepter d'être gouverné et le fait à un moment de refuser d'être gouverné ainsi. Aujourd'hui, il est à prendre avec encore plus de vigilance, puisque l'art de pas être trop gouverné peut devenir le meilleur allié de ceux qui veulent finalement moins d'État, moins de services publics, etc. Donc c'est ce moment très complexe dans lequel nous nous situons que Monod décrit et dont il dit justement que cet art de ne pas être trop gouverné, pas trop gouverné, donc pas de ne pas être gouverné du tout, mais de ne pas être trop gouverné, aujourd'hui doit absolument composer avec le souci du public et le souci du commun, la justice sociale et la transition écologique, pour le dire peut-être plus concrètement, qui sont quand même effectivement au cœur de notre moment, de la crise des Gilets jaunes, mais de notre moment politique de façon plus large.
Il est évident que la dialectique que vous décrivez et que décrit Jean-Claude Monod est celle qui traverse notre temps, mais elle oppose au fait un désir, on va dire, d'horizontalité qui est celui de la justice sociale, de la transition écologique et d'un certain nombre de principes que tout le monde devrait partager, avec un désir sourd de verticalité, puisque le politique a perdu la main sur le gouvernement des hommes. Et donc, comme il n'y a pas la conclusion sur l'autorité telle qu'elle pourrait être, il ne répond pas, à mon avis, au grand danger contemporain qui est de répondre à cette demande de verticalité par la restauration de figures charismatiques, alors ça il le décrit très bien avec les dangers que ça propose, qui seraient omnipotent, et donc c'est toutes les grandes figures que l'on voit apparaître à travers les sociétés occidentales qui gagnent les élections les uns après les autres et qui restaure une forme politique éloignée elle aussi du libéralisme tel qu'on l'a connu depuis le XVIIIe siècle. Et donc cette tension autour de l'autorité et de l'autorité légitime, elle est au cœur du livre, mais je trouve qu'il ne la pose pas absolument et que donc on ne trouve pas le point de sortie de cette dialectique qui à terme fera gagner partout les verticaux, il me semble.
Alors, Béatrice Bougnol.
Oui, pardon. Il faut peut-être juste rappeler à ce moment-là du débat que précédemment à cet ouvrage, Jean-Claude Monod a publié un autre essai, Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? Donc, je pense pas. Enfin, je pense que cette question-là, justement, de l'autorité légitime et de la redéfinition d'une figure qui porterait cette autorité légitime, elle est au cœur de son travail. Finalement, là, on est un peu dans l'acte suivant de sa recherche. D'autre part, ce que je voulais pointer en réponse à votre remarque, c'est ces moments de trouble, donc de crise de gouvernementalité, etc., ils pointent bien à quel point ils sont aussi des moments de réinvention. Des moments, justement...
Oui, en se penchant sur la réforme, en se penchant sur la révolution iranienne, voilà, sur des moments importants qui ont été aussi explorés par Michel Foucault, puisque c'est quand même le fil rouge, évidemment, de ce livre.
C'est ça, puisque la réforme, Foucault en fait même la matrice, j'allais dire, des crises de gouvernementalité, puisque à ce moment-là, finalement, c'est la critique même, le droit à la critique qui intègre la foi avec la réforme pour Foucault. C'est donc un peu la matrice des crises qui viendront après, qui sont pas très nombreuses. Donc il faut aussi se rendre compte de la complexité du moment dans lequel on est. Je trouve que le fait de reprendre l'historique que fait Foucault donne aussi un peu l'ampleur, j'allais dire, de notre tâche quelque part commune aujourd'hui. C'est que finalement, il y a la réforme, il y a cette crise de gouvernementalité au XVIIIe siècle qui ouvre le libéralisme politique. Et après, il y a cette crise ouverte depuis les années 80, dans laquelle nous naviguons un peu à vue et qui est la nôtre. Pardon, j'étais juste avant en train de dire qu'effectivement, pour Monod, ces moments de crise sont aussi des moments d'invention. Moi, je pense qu'il y a effectivement cette réflexion qu'il a déjà eue sur la figure du chef légitime en démocratie. Et justement pour dire, il faut réinventer des figures de chef légitime qui peuvent porter la politique face justement aux intérêts économiques que le néolibéralisme a mis en avant. Il y a aussi, dans ce temps de réinvention, effectivement, la part donnée à la participation citoyenne. Et là, on est dans un champ qui est expérimenté d'ailleurs depuis des années, mais qui l'est de façon nouvelle en France, qui a été quand même porté aussi par le mouvement des Gilets jaunes l'année dernière, et qui est de un autre art, j'allais dire, de ne pas être trop gouverné, c'est-à-dire en tout cas de ne plus être gouverné uniquement par la démocratie représentative.
Oui, puisqu'il y a dans cet ouvrage de Jean-Claude Monod, donc l'art de ne pas être trop gouverné aux éditions du Seuil, Vincent Trémollet de Villa, il y a aussi quelques propositions, donc on a compris, hein, il fait une généalogie, il revient sur ces crises de la gouvernementalité telle que la pensée Foucault, il y ajoute plutôt une analyse un petit peu de ce qui manque, selon lui, chez Foucault, c'est-à-dire d'intégrer la façon dont la démocratie peut répondre à ça, et il fait une critique assez sévère, en disant, on a l'impression qu'avec Foucault, une fois qu'on est sorti de la crise et qu'on retombe un petit peu dans la nécessaire remise en place de formes de gouvernement des hommes, et on sort un peu de l'histoire, on va dire, et c'est de nouveau critiquable. Et lui, il dit non, il faut bien repenser aussi la façon dont on peut accepter d'être gouverné. Il fait des propositions, il parle de la notion de public et la notion d'usufruit. C'est les deux notions qu'il articule à la fin autour, évidemment, de l'enjeu écologique qui est central pour lui.
Alors là, il rejoint un certain nombre d'auteurs qui, comme lui, est le premier, je crois, n'était pas un penseur politique, mais un politique pur, qui est Hubert Védrine, dans un livre il y a 4 ou 5 ans, qui disait que le nouvel imaginaire politique et le nouveau ciment social qu'il voyait poindre dans les sociétés occidentales était l'enjeu écologique, et qu'à travers lui, on avait l'impression d'un nous commun et du développement d'un soin des choses et du monde. Ça, on ne peut encore une fois que partager ce point de vue, avec quand même une limite et une rupture sociologique, c'est-à-dire que ce souci-là, les études d'opinion le montrent, et notamment l'IFOP en a fait une il y a quelques mois, touche beaucoup plus les centres urbains et les grandes métropoles que les périphéries, et donc peut apparaître pour certains comme un élément de distinction sociale, plus qu'une espèce de morale de luxe, au fait, plus qu'une morale commune. Mais il me semble quand même que la fréquentation du monde et de la nature est en train de devenir, de façon presque irrésistible, un élément d'unité politique minimum, on va dire. Ensuite, la question de savoir comment l'aborde, minimum. Et donc là, oui, il y a de quoi pouvoir restaurer au moins une entente et désarper, archipéliser, on va dire, nos sociétés fracturées. Reste encore une fois le problème de cette contradiction entre cette volonté de participation et de retrouver un poids politique et cette demande que ceux qui incarnent et représentent aient une efficacité beaucoup plus efficace que les assemblées délibératives. Et donc, en général, ça se termine par le choix d'un homme fort. Il y a même toutes les pages sur Derrida et la figure du père et de l'homme et de la virilité du pouvoir. C'est très intéressant, c'est très frappant parce que à quoi on assiste aujourd'hui en Occident, c'est une restauration presque caricaturale de l'homme plein de testostérone comme chef, que ce soit Poutine, que ce soit Trump, que ce soit Boris Johnson, que ce soit Matteo Salvini. C'est une esthétique d'une forme d'autorité qui avait été déconstruite et qui réapparaît dans une forme un peu outrancière.
Mais Béatrice Bougnol, cette notion de public et d'usufruit que mobilise à la fin de l'essai Jean-Claude Monod, enfin vous voulez peut-être répondre à ce que vient de dire Vincent Trémollet de Villers, mais en deux temps alors, une réponse à Vincent Trémollet de Villers et puis comme ça on ouvre sur cette proposition, puis il faudra qu'on passe au deuxième essai quand même.
Ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment on est bien d'accord sur le danger qui est déjà visible. J'ai un autre sondage IFOP en tête qui date d'il y a un an, où effectivement je crois que c'était 4 Français sur 10 qui disaient être prêts à un pouvoir autoritaire pour pouvoir réformer comme il fallait le pays. Donc on est bien d'accord, et je pense Jean-Claude Monod le premier pour déceler ce danger là dans notre temps. Je crois que c'est même tout l'enjeu en fait de son ouvrage, et c'est peut-être là-dessus que je voulais terminer si c'est possible. C'est vraiment, et vous l'avez dit Raphaël tout au début, c'est vraiment comment on sort du néolibéralisme sans perdre le libéralisme politique. Et je trouve que là, c'est là qu'il s'éloigne aussi de Michel Foucault, dont il dit effectivement lui-même qu'il était plus attentif à l'éclosion des révoltes qu'à leur devenir. Et quand vous disiez, quand vous parliez des Gilets jaunes ou de Nuit debout en disant, ben voilà, c'est arrivé finalement à une impasse au bout d'un moment.
Ça a été exclu en quoi.
Et donc je trouve que justement Monod fait l'effort de voir ce qui pourrait être institutionnalisé de cette crise de la gouvernementalité actuelle, et je pense que dans cette volonté d'inscrire dans notre constitution, pour le dire clairement, un peu d'espace de non-gouvernement ou d'autres gouvernements, il y a bien sûr cette conscience du danger qui pointe d'un pouvoir fort en fait. Je pense qu'après effectivement il fait des propositions, elles sont forcément comme celle du revenu universel aussi, dont on pourrait parler parce que elle a été déjà débattu pendant la présidentielle dernière, etc. Je pense qu'on est dans un moment effectivement de réinvention telle que les propositions qu'on met sur la table apparaissent toujours minimales, j'allais dire, par rapport aux enjeux énormes qui sont face à nous. Je pense que c'est le propre d'une transition et que l'essai de Jean-Claude Monod, pour moi, nous invite à prendre activement notre part dans ce débat entre comment être gouverné autrement, continuer à l'être démocratiquement.
Donc, Jean-Claude Monod, L'art de ne pas être trop gouverné, c'est aux éditions du Seuil. Je rappelle aussi un essai qui avait été très important dans cette idée que vous soulignez à l'instant, Béatrice Bougnol, de sortir du néolibéralisme en conservant le libéralisme, celui de Barbara Stiegler. Il faut s'adapter, on en avait parlé ici récemment. Donc voilà, on peut lire aussi, se tourner vers Gallimard.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourbois.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Pas mis le nez dehors et pas lavé. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. De pas vouloir m'aimer. C'est oui
étaient liés. J'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier, c'est oui ou bien c'est non.
Le tout dernier titre de la chanteuse belge Angèle, oui ou non, finalement c'est l'alternative de toutes les démocraties, hein. On a du mal à en sortir même si on essaye de complexifier un peu la chose. Par exemple, dans le deuxième essai dont il sera question ce soir, je vous propose maintenant de nous pencher sur le livre d'Adeline Baldacchino, Notre insatiable désir de magie, Houdini contre Macron, publié chez Fayard. Sortie de l'ENA en 2009, mais aussi écrivaine et poète, Adeline Baldacchino avait publié son premier roman l'an dernier, celui qui disait non, récompensé du prix de l'Académie française. Elle avait aussi analysé, dans un essai paru en 2013 chez Michalon, la ferme des énarques, les failles du système de formation des hauts fonctionnaires. Une critique qu'elle reprend ici, puisqu'elle s'attaque à Emmanuel Macron, présenté en dernier roi des énarques, comme ultime incarnation à la fois de l'idée d'un sauveur qui aurait réponse à tout et du néolibéralisme triomphant. Il est encore question de cela. L'objectif de l'essai, on le comprend au fur et à mesure de la lecture, c'est de détricoter l'en-même-tantisme, la fausse complexité sans le L du macronisme, qui s'inscrit en réalité dans une binarité mortifère en se plaçant du côté du vrai contre le faux, du il n'y a pas d'alternative contre ceux qui prétendent le contraire, du bien contre le mal, faisant de Marine Le Pen sa seule opposante. Le macronisme ne respecte pas sa promesse de rénover la politique. Il la tue. La conviction d'Aline Baldacchino, née au moment des Gilets jaunes, il est encore question de cela, dont il est largement question dans cet essai, son intuition, pour reprendre ses termes, c'est qu'il manque quelque chose aux politiques, et ce quelque chose, c'est le supplément d'âme qu'apporte la littérature ou l'art, l'amour ou l'amitié, l'aventure ou le divertissement. Elle va donc chercher la figure du fameux magicien Houdini, c'est la vraie originalité de ce livre, le roi de l'évasion érigé en figure de la démocratisation. Le principe Houdini affirme que la magie peut être faite par tous et pour tous, à condition évidemment de dévoiler ses trucs, ses secrets, ni poudre aux yeux, ni manipulation. Elle est une manière de faire advenir ce que l'on pensait impossible. Résolument non élitiste, elle ressuscite les pouvoirs de la jubilation et du partage, un portrait donc très politique du magicien. Vincent Trémonet-Villers, Adeline Baldacchino déploie dans ce livre beaucoup de travail et d'énergie justement pour faire ce parallèle entre magie et politique.
Oui, alors je pense que d'abord il faut peut-être parler quand même de la forme de ce livre. Son titre est déroutant et son bandeau Houdini contre Macron aussi. Et quand on entre dans ce livre, on a une espèce de bonheur assez rare qui est de retrouver ou de même trouver, parce que elle a vraiment un style propre à elle. D'abord la qualité d'une plume et d'une écriture, ensuite l'acuité d'un regard qui ne se prive pas d'une certaine férocité, une capacité de nuance aussi très importante, c'est-à-dire que sa critique du macronisme n'est pas du tout une critique, comment dire, catégorique et frontale, qui consisterait à dire, et d'ailleurs elle se moque pas mal de ceux qui pourraient avoir une vision un peu complotiste expliquant que c'est l'homme des puissants, et elle montre que les choses sont beaucoup plus complexe que ça. Donc elle livre vraiment une forme littéraire de l'essai, c'est-à-dire qu'elle applique à l'essai politique ce qu'elle voudrait que la politique retrouve. Le charme, la littérature, une forme de sensualité, la vie. Donc ça déjà, c'est vraiment à saluer. Moi je dois reconnaître que j'avais pas lu son roman, j'avais pas lu La ferme des énarques, et que je ne veux pas parler de choc, parce que c'était pas un choc, mais un très grand plaisir à ouvrir ces pages et à dévorer cet ouvrage. Alors ensuite, il y a un constat qui est discutable, mais quand même très intéressant et très très fin, de ce que peut être le macronisme, du poids de l'ENA dans cette histoire, de la forme aristocratique que cette école donne à ceux qui en sortent et qui fait qu'ils se promènent dans les ministères comme des aristocrates dans leur propriété avec une espèce de certitude d'être l'intelligence, c'est-à-dire pas d'être le pouvoir, pas d'être la puissance, d'abord d'être l'intelligence. Elle explique ça très bien. Vraiment, ils sont les intelligents. Donc il y a cet élément-là qui est vraiment expliqué de façon très fine. Il y a sa critique du TINA, là, il y a une page
magnifique. There is no alternative.
Voilà, où le TINA devient une espèce de refrain. Bon, c'est très amusant. La proposition politique est plus complexe à saisir. Si ça consiste à réenchanter la politique, on comprend très bien. La notion de poésie et de beauté, on la comprend très bien. Il faut se souvenir que les chefs très très anciens avaient pour projet d'abord d'embellir le royaume, c'est-à-dire l'idée de la beauté était importante en politique. Elle a complètement disparu. Personne n'en parle jamais. On n'a pas entendu un homme politique depuis 25 ans dire on va essayer de rendre plus beau ou de vouloir restaurer un peu de poésie. Donc, et ça, je pense que ça n'est pas des lubies d'esthètes. C'est vraiment le moyen de rendre à cette notion politique ce qu'elle a perdu. Et d'ailleurs, elle dit quelque chose de très fort à un moment. Elle explique que la politique est le seul endroit où sont évacués ces éléments de poésie, et que quand on s'en approche, il faut s'en débarrasser, il faut les désapprendre. Elle emploie ce verbe. Donc là, elle touche très juste. Ensuite, sur la magie, c'est un peu plus difficile de saisir ce qu'est la, parce qu'il y a, comme elle est très, très intelligente et très habile, il y a la magie macronienne aussi quand même, la poudre aux yeux du macronisme, et puis il y a la magie houdinienne qui est celle de sortir du coffre du TINA, du There is no alternative, pour essayer de... Bon, et là, on aimerait être d'accord avec elle, parce qu'on a été, charmé par tout ce qu'on on a lu, mais ça n'est pas encore absolument, sinon convaincant, au moins opérant.
Oui,
Béatrice Bougnol.
Je partage beaucoup de choses qui viennent d'être dites, y compris effectivement le charme de la lecture, mais y compris effectivement ce que vous venez de dire un peu sur la fin aussi, c'est-à-dire que, alors là on est dans un tout autre genre, j'allais dire, par rapport à notre premier essai, parce que il y a effectivement un plaisir de lecture indéniable et à la fois une argumentation qui est parfois plus difficile à suivre, en tout cas qui ne se livre pas comme une argumentation d'une logique, j'allais dire, très clair. Moi, je pense qu'effectivement, la question de la magie, elle est éminemment politique, puisque elle va définir, Adeline Baldacchino, la politique comme le fait de rendre un monde désirable, en fait. Et là, on retrouve d'ailleurs aussi le projet d'Emmanuel Macron au départ, quand il ne cessait de parler de récit et de dire qu'il faut donner un nouveau récit de la France. Donc finalement, cette capacité de réenchantement de la politique, je pense que elle a été au cœur aussi de l'élection, la dernière élection présidentielle. Vu le réquisitoire implacable d'Adeline Baldacchino, elle en fait effectivement de la poudre aux yeux. Mais effectivement, cette nécessité d'un réenchantement, d'un nouveau récit, d'un monde désirable, je pense que effectivement Emmanuel Macron l'a déjà pris comme le cœur de son projet en 2017. Par rapport à Houdini, c'est la capacité de se libérer des liens, en fait, qu'il s'est lui-même donné, en fait, qu'elle met en avant. Donc, c'est vraiment, encore une fois, effectivement, une très belle métaphore du moment où nous nous trouvons et de cet art de ne pas être trop gouverné, encore une fois, que nous sommes capables d'inventer aujourd'hui.
Mais pour reprendre sur cette image du magicien de Houdini, le roi de l'escapologie, c'est le terme qu'elle emploie, de sa capacité à s'échapper, l'utilisation qu'en fait Adeline Baldacchino, finalement, l'utilisation politique qu'elle en fait, c'est de dire, en fait, le magicien, c'est pas celui qui est forcément un illusionniste, mais c'est celui qui comprend suffisamment le réel pour le transformer et pour aller chercher ce qu'on pensait impossible, à savoir s'échapper d'une camisole de force, plonger la tête en bas dans un bain d'eau avec des chaînes partout, et ben en ayant caché la clé dans son estomac, puisqu'apparemment voilà. C'est comme ça que faisait Houdini.
Alors là, si on essaye d'appliquer un peu cette volonté de réenchantement et cette magie, vers quoi on peut se tourner? Si on prend des exemples politiques concrets, alors par exemple, on pourrait prendre la campagne du Parti Socialiste, la primaire de 2017, avec Benoît Hamon, qui dans son programme avait développé un certain nombre de principes qu'il devait considérer, et que certains ont considéré, puisqu'il a gagné, comme réenchanteurs. Moi, c'est là que je me détourne un peu d'Adeline Panalkino, il me semble que le désenchantement du monde vient du fait qu'on en a été séparé. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être réenchanté. Il a besoin d'être retrouvé. Et il y a une séparation qui s'est établie par la statistique, par l'économie, par une forme glaciale de la parole publique, par une façon qu'on a désappris d'habiter le monde, qui fait que nous, par ces écrans aussi qui nous en séparent, qui fait qu'on n'y a plus accès et que donc il me semble que la magie, le sortilège, ce qu'il faudrait restaurer, c'est être capable de retrouver la fréquentation et l'amitié du monde. Et que donc, ça ne demande pas de tour extraordinaire, mais plutôt une forme de simplicité oubliée. Mmh. Alors, elle a des pages sur l'humilité qui sont aussi des pages très fortes et qui, à mon avis, manquent beaucoup à la politique aujourd'hui. Mais voilà, il me semble que s'il y a une faiblesse dans ce très bel ouvrage, c'est cette volonté de restaurer le changer la vie de François Mitterrand et d'Arthur Rimbaud, alors qu'à mon avis, l'angoisse contemporaine, c'est retrouver la vie, les vivants, disait Michel Houellebecq, je trouvais les vivants, plutôt que la changer.
Adeline Baldacchino, Béatrice Bougnol, finalement se réapproprie une critique qui est souvent faite à ceux qui vont contre cette absence d'alternative. On va dire, voilà, on peut pas faire autrement, il y a la question de la dette. Parce qu'il y a aussi, dans ce livre, on l'a pas dit, mais il y a aussi des arguments très concrets, hein, matériels, d'économie, de sociologie, sur le fonctionnement de la dette, sur la dépense publique. C'est aussi une énarque, hein, rappelons-le, Adeline Baldacchino. Donc elle a aussi cette capacité-là. Et elle reprend cette critique souvent qui est faite de pensée magique. Voilà, ceux qui s'opposent à la politique telle qu'elle est faite, et notamment menée à Bruxelles par exemple, puisque c'est souvent vers là qu'on se tourne, on dit ceux qui s'opposent à ça, c'est la pensée magique. Et ce que nous dit Adeline Baldacchino, c'est bah oui, mais retrouvons cette pensée magique pour lui donner une fonction politique et redonner un horizon en quelque sorte.
Oui, oui, elle va, en fait, c'est toute la force quand même de son ouvrage. Hein. C'est comme une critique qui vient de l'intérieur même de ce que beaucoup appellent le système, en fait. Donc, quand elle s'en prend, par exemple, à la question de la dette et de la solvabilité des États, effectivement, le fait que ça soit une énarque qui nous parle et qui déconstruise totalement ce discours-là a forcément une saveur particulière. Elle va très loin, en fait. Elle est très radicale dans ses propos et dans les propositions qu'elle fait. Elle va jusqu'à dire que on nous a fait croire quelque part que la politique était une fable et la science et l'économie seule une science exacte, et que presque il faudrait réinverser les termes aujourd'hui. Elle a des arguments, comme vous le dites, techniques, en fait, pour le montrer. Là, on parle beaucoup du style de très alerte, très, mais de fait, elle est aussi très précise dans ses attaques.
Oui, c'est parce que le style, c'est quand même, et la fonction qu'elle donne à la magie, c'est peut-être ce qu'il y a de plus original. Après, tout ce qu'elle reprend, par exemple, sur la question de la dette, on a pu le lire par ailleurs. Enfin, je veux dire, oui, c'est peut-être moins original.
Je pense qu'après, encore une fois, la position dans laquelle elle se trouve, fait que cette critique-là, reprise par une énarque qui ne se cache pas d'avoir choisi Emmanuel Macron dans un premier temps, est d'autant plus importante. Sur cette critique de la solvabilité des États, pour prendre juste cet exemple, elle nous redit effectivement, puisque c'est des choses qui ont pu être dites par ailleurs, mais elle nous redit qu'en fait, on ne peut pas regarder un État comme on regarde un particulier ou une entreprise quelconque, que l'État dispose de moyens totalement autres, de lever des impôts, d'emprunter de l'argent, enfin bon voilà. Et elle cite des exemples très précis, comme celui de l'Islande, qui en 2008 fait des choix tout à fait radicaux, qui s'avèrent finalement plutôt positifs. Donc tout ça pour dire que sa visée de réenchanter ou d'enchanter la politique, elle la pose aussi sur une description sans aucune réserve des mensonges, entre guillemets, pour elle, de cette non-alternative. Et la magie, le réenchantement, moi je dirais pas que c'est quelque chose un peu de rêver, c'est-à-dire que c'est avant tout de réouvrir le champ des possibles, en fait, de dire justement, il y a des alternatives. On rompt avec ce discours qui est effectivement celui du néolibéralisme, là elle rejoint complètement Mono, hein, et on est dans le moment où il faut à nouveau envisager d'autres alternatives. Alors,
sur la question du néolibéralisme, et c'est le cas aussi chez Mono, ça peut quand même développer un certain scepticisme. C'est-à-dire que la façon dont elle le décrit, alors sa définition qu'elle donne est très précise, souvent c'est plus nébuleux quand les gens s'attaquent au néolibéralisme, mais il y a quelque chose de gênant, il me semble, dans cette notion comme une forme de clé magique qui serait l'architecture, sinon secrète, au moins unique de l'organisation du monde occidental. C'est une réalité, je ne la nie pas, mais je ne pense pas qu'on puisse lui attacher le fonctionnement des sociétés, de l'économie et de la politique intégralement. Et ça mériterait quand même d'être nuancé à beaucoup d'endroits. Et là, il y a un peu cette facilité du Moloch qu'il faudrait combattre et qui n'est pas toujours définie. Il y a quand même d'autres éléments qui viennent et qui ne sont pas nés avec le néolibéralisme dans la dilution et la dissolution du politique. Alors on peut expliquer que l'apparition de la société médiatique est un fruit du néolibéralisme, mais enfin c'est quand même pas une puissance omnipotente. Et la destruction de l'école n'est pas le fait d'abord des néolibéraux dans les années 70, ça commence à ce moment-là. Le recul de la culture générale, un certain nombre d'éléments qui sont dénoncés par Adeline Baldacchino comme une des causes de la dissolution du politique sont attribués à cette espèce de force négative que serait le néolibéralisme, sans que jamais ce soit absolument démontré. Ça n'est pas la première. Hein. Il se trouve qu'on lit beaucoup d'essais sur ce sujet-là parce que c'est un et que il me semble que ça mériterait un jour de faire le tri entre le bon grain de ce qui n'en est pas et l'ivraie de ce qui en est, parce que là ça peut sembler une tendance à la facilité par moment.
Ah, il y a quand même un chercheur qui s'est attelé à cette tâche, qui est Serge Audier, qu'elle cite au début de l'essai, qui avait montré évidemment qu'il y avait tout un travail sur d'archéologie presque sur l'histoire du néolibéralisme, qui montrait bien qu'il n'y en avait mais plusieurs.
Ouais, voilà, mais ça ramène quand même aux causes uniques et ça développe pour certains esprits, dont le mien, une distance immédiate.
Même si, évidemment, si on prend la définition, on va dire, minimale, qui serait celle de l'assujettissement du politique à des logiques économiques, qui est celle qu'elle prouve, voilà, je pense qu'on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus pour faire un certain nombre d'analyses, mais je voulais vous entendre, Béatrice Bougnol, puisque vous avez parlé à un moment de la radicalité d'Adeline Baldacchino, elle emploie un terme, elle dit une radicalité non violente, parce que c'est aussi, on sent bien son souci, elle parle aussi des gilets jaunes, je le disais, c'est de désamorcer une forme de violence qu'elle sent émerger dans cette opposition binaire, ce simplisme qui va aujourd'hui s'opposer à un macronisme ou en tout cas tout ce qu'il y a autour qui sera du côté de la vérité, donc c'est aussi du côté des énarques évidemment, qui eux détiennent la vérité et ceux qui s'opposent à ça, qui sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche et qui pour s'opposer en sont réduits à une forme de violence selon elle, et donc tout son propos aussi avec la magie c'est de désamorcer cette violence.
Oui, tout à fait, en fait le réel résiste comme elle le dit à un moment, c'est-à-dire que sur ce danger de la violence et sur cette analyse qu'elle livre elle aussi du mouvement des Gilets jaunes, elle va jusqu'à dire par exemple ce qui se joue là au sein du peuple, c'est ce rapport élémentaire à la politique au sens le plus noble, le désir de reprendre la main sur sa propre existence. Je pense qu'elle est évidemment, comme Mono tout à l'heure, elle est tout à fait consciente du danger aussi qui pointe. Pour répondre aussi à Vincent sur le néolibéralisme, je pense que cette définition minimale que vous avez repris, Raphaël, qui est l'assujettissement, on va dire, de la politique à l'économique, c'est surtout une manière de dire il faut encore une fois réinventer la politique. C'est-à-dire que on peut débattre après, bien sûr, d'autres sujets qui ont fait.
Il faut la restaurer.
Donc on peut débattre effectivement de ce qui la mine aujourd'hui et qui ne dépend pas forcément tout le temps du néolibéralisme. Et encore, c'est un sujet de débat, disons. Mais admettons que ce ne soit pas le cas. De toute façon, moi, je pense que cette critique-là du néolibéralisme, comme chez Mono, elle vise à nourrir ce moment de réinvention politique dans lequel nous nous trouvons. Et moi, j'ai trouvé que Adeline Baldacchino était plus... J'ai trouvé que Adeline Baldacchino était finalement plus convaincante même que dans son réquisitoire contre le macronisme quand elle parle de l'autocensure. Vous parliez tout à l'heure de cette nécessité de retrouver une simplicité. En fait, c'est retrouver effectivement le sens le plus premier de la politique. Et cette autocensure pour elle, c'est de que chacun se pense incapable de mener un projet politique. Donc là, on rejoint aussi ces demandes de participation actuelles et de ce qui s'expérimente quand même dans ces assemblées délibératives, qui est effectivement pas la solution générale. J'en suis bien d'accord.
Bah c'est une partie de la définition de la démocratie. Hein.
Mais c'est une partie de la démocratie.
La démocratie, ça ne consiste pas seulement à aller voter tous les 5 ans.
Voilà.
C'est la possibilité d'un désaccord intelligent.
Donc, exactement. Et là encore, le fait qu'une énarque dise finalement, les énarques, ceux qu'on a désignés comme les intelligents, vous disiez, Raphaël, aujourd'hui, ne sont pas plus capables, a priori, de faire des décisions, de prendre des décisions politiques qu'un citoyen, non pas une assemblée de citoyens qui échange simplement sur ses opinions, mais une assemblée de citoyens qui auditionne des experts, qui a le temps de la délibération collective. Rien n'empêche de penser, effectivement, que ces citoyens rassemblés peuvent participer aux décisions politiques.
Oui, parce que le souci, hein, on comprend bien d'Adeline Baldacchino, c'est de sortir de l'impuissance. Hein, c'est un autre thème qu'on n'a peut-être pas forcément prononcé encore ce soir, mais qui nous occupe depuis un certain nombre de temps autour de la crise de la démocratie. Et elle interroge sur les causes profondes de l'impuissance, ce qu'elle appelle l'impuissance administrative, et puisque elle nous dit bien qu'il y a cette espèce de communauté entre l'administration et la politique aujourd'hui, l'impuissance s'est étendue à tous les domaines de la prise de décision politique, la capacité d'agir sur le réel, et c'est bien de ça qu'elle nous enjoint à sortir en faisant appel à l'image de Houdini. Donc Adeline Baldacchino, notre insatiable désir de magie, Houdini contre Macron, c'est aux éditions Fayard.
L'instant critique.
L'instant critique, c'est la dernière séquence de cette émission, une séquence où nos critiques, Vincent Frémollet de Villers, Béatrice Bougnol, vont vous donner des conseils, voilà, pour vous occuper un petit peu ce week-end, Béatrice Bougnol.
Oui, en fait, moi, c'était un double coup de cœur voulais vous livrer pour un roman qui est celui de Vincent Message-Cora dans la spirale et un film qui est Ce qui travaille d'Antoine Rusbach. Si je les ai réunis, j'allais dire, dans ce coup de cœur, c'est que tous deux, par la fiction, donnent une description très détaillée de ce que l'organisation du travail aujourd'hui fait à l'intimité de nos vies. D'un côté, on suit Cora, qui est salariée dans une compagnie d'assurance. De l'autre, Franck, qui est cadre dans une compagnie de fret maritime. Ce sont deux trajectoires tragiques, en fait, qui disent toutes deux ce que le travail, finalement, fait à nos vies et à notre humanité.
Un roman, c'est aux éditions du Seuil, je crois, hein, le livre
c'est
de Vincent
édition
Message.
Du Seuil, pardon. Oui, Cora dans la spirale, Vincent Message, édition du Seuil, et Ceux qui travaillent, avec Olivier Gourmet dans le rôle de Franck, le film d'Antoine Rusbach.
Qui est donc au cinéma. Vincent Trémollet de Villers.
Moi, j'ai eu le bonheur de voir jeudi soir la première du nouveau spectacle, la nouvelle lecture de Fabrice Lucchini qui s'appelle Conversation et autour du portrait et de l'autoportrait. Alors là, notre insatiable désir de magie est presque comblé parce qu'on retrouve la poésie de la langue, la beauté de la littérature et notamment il restaure un auteur absolument oublié qui s'appelait Jean Co, qui était le secrétaire de Jean-Paul Sartre et puis qui ensuite est passé de l'autre bord politique et qui a écrit des croquis de mémoire, notamment un portrait prodigieux de Gaston Gallimard, un autre de Jean Cocteau et un troisième de Jean Genet. Fabrice Lucchini lit ces portraits, nous les fait découvrir et on a l'impression d'être en compagnie de tous ces écrivains. Il y a aussi un très beau passage, le portrait de Chloé, la chirurgienne de Philippe Lançon, dans Le Lambeau, qui donne lieu à une lecture extrêmement émouvante. L'intégralité du spectacle est d'une très grande finesse, d'une très grande justesse et on mesure que la littérature devient de plus en plus le refuge de la beauté, de l'intelligence et d'une forme de liberté. Donc c'est au studio Marigny. Je crois qu'il n'y a déjà plus beaucoup de place, mais ça se prolongera certainement dans d'autres théâtres et ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce petit chef-d'œuvre.
Donc allez voir Fabrice Lucchini. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, Béatrice Bougnol. Je rappelle les deux essais dont il était question ce soir. Jean-Claude Monod, L'art de ne pas être trop gouverner. C'est aux éditions du Seuil dans la collection L'Ordre philosophique. Et Adeline Baldacchino, notre insatiable désir de magie, Houdini contre Macron. C'est aux éditions Fayard. Avis critique, c'est terminé. Attachée d'émission, Catherine Donnet. À la prise de son aujourd'hui, c'était Claude Niort. À la réalisation, Vanessa Nadjar. Cette émission, vous pouvez évidemment la télécharger, la réécouter sur notre site franceculture.fr à la page d'avis critique, page sur laquelle vous pourrez vous abonner au podcast. Il faut s'abonner au podcast. Dans quelques instants, Jukebox. Thank you.